Imaginons qu'on tombe sur un manuel de survie conçu pour un environnement vraiment hostile. En l'ouvrant, on s'attendrait logiquement à trouver des instructions super austères, genre comment rationner l'eau, construire un abri et se cacher des prédateurs, quoi.
Ouais, le guide de survie classique, hyper strict.
C'est ça. Sauf que là, surprise. Au lieu d'un guide de privation, on tombe sur une véritable masterclass tactique, presque agressive en fait, sur la façon de maximiser sa propre joie.
Ah oui, le contraste est énorme.
C'est exactement le paradoxe monumental qu'on a sur la table aujourd'hui. On a tellement l'habitude d'associer les textes anciens, la spiritualité à des trucs froids, des visages sévères, une vertu qui se définit par la souffrance.
Alors que la réalité de notre sujet du jour, c'est l'opposé absolu.
Totalement. Et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. La mission, aujourd'hui, c'est de plonger au cœur des quatre premiers versets du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens.
Une très belle plongée, oui.
Et pour nous guider dans ce labyrinthe antique, on va s'appuyer sur l'analyse fascinante du docteur Matthieu S. Harmon. C'est tiré de ses recherches intitulées La joie enracinée dans une vie partagée. L'objectif est limpide, hein, on va essayer de déterrer un secret vieux de 2 millénaires. Totalement contre-intuitif pour atteindre une joie maximale.
C'est un sacré programme. Et ce contraste dont on parlait pour l'intro, c'est vraiment la clé d'entrée parfaite. Parce que l'idée que la dévotion spirituelle exige une existence disciplinée jusqu'à l'ennui.
Ouais, ou une espèce de privation volontaire de tout bonheur.
Exactement. C'est un mythe hyper tenace. Mais l'analyse qu'on décortique aujourd'hui, elle démolit vraiment cette perception pièce par pièce. Le texte, il agit concrètement comme un manifeste sur l'épanouissement humain, en fait.
C'est dingue. Mais du coup, comment on situe tout ça alors?
Eh bien, pour bien saisir l'onde de choc que représentaient ces quatre versets à l'époque, c'est indispensable de poser le décor. L'auteur, il ne lance pas ses idées dans le vide.
D'accord.
Ce passage, il suit immédiatement une section à la fin du premier chapitre où il est expliqué que l'évangile agit comme une sorte de constitution inébranlable.
Une constitution pour les citoyens du royaume de Dieu, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Une constitution qui dicte leur identité, surtout face à une opposition féroce. Et en plus, ces mêmes versets préparent directement le terrain pour ce qui suit, c'est-à-dire le célèbre hymne au Christ.
Le fameux passage poétique sur l'incarnation.
Voilà, donc on se trouve vraiment sur la charnière, le point de bascule entre l'identité d'une communauté et l'exemple ultime de son fondateur.
Une charnière qui parle de joie, donc. Mais, et c'est là que l'analyse du docteur Harmon devient vraiment passionnante. Ce manuel sur la joie, il commence absolument pas par parler de nos émotions.
Ni de nos ressentis.
Non, pas du tout. Pour comprendre la mécanique de cette joie, il faut d'abord plonger dans une curiosité grammaticale. Un truc un peu caché sous le capot du texte grec original.
C'est vrai que la grammaire, ça peut faire un peu peur au premier abord.
Grave. Mais là, c'est ce qui déverrouille tout le sens. Bon, décortiquons ça un peu. C'est quoi ce socle grammatical en limérique?
C'est le fondement absolu. Faut savoir que dans nos traductions modernes, par souci de lisibilité, on découpe souvent ces quatre premiers vers en plusieurs petites phrases bien nettes.
Ouais, pour que ce soit plus digeste.
Exactement. Sauf qu'en grec ancien, du verset 1 au verset 4, il n'y a qu'une seule et unique longue phrase majestueuse.
Ininterrompue.
Ah ouais, d'un seul souffle.
C'est ça. L'auteur construit son argumentaire d'un bloc. Et structurellement, c'est ce que les linguistes appellent une proposition conditionnelle de première classe. En gros, c'est une architecture logique qui utilise le format « si, alors ».
Sauf que, attention, le « si » en question n'a absolument rien à voir avec de l'incertitude. C'est pas comme dire « s'il fait beau demain, on ira peut-être se promener ».
Non, voilà, où tout dépendrait de la météo. L'analogie qui fonctionne le mieux ici, je trouve, c'est celle des fondations d'une maison. C'est comme déclarer « puisque nous avons un toit solide au-dessus de nos têtes, alors nous sommes à l'abri de la tempête. »
Ouais.
Le toit, c'est pas une hypothèse. Il est bel et bien là.
La comparaison est très juste. La conditionnelle de première classe en grec, elle assume que l'hypothèse de départ est une réalité indiscutable pour les besoins de l'argument.
Donc pas de place au doute.
Aucune. Quand le texte dit « s'il y a quelques encouragements en Christ », l'auteur, il ne se gratte pas la tête en se demandant s'il en reste un peu en stock, quoi.
C'est plutôt un « puisqu'il y a cet encouragement ».
Exactement. Puisque c'est là, et qu'on le sait pertinemment, alors voilà ce qui doit inévitablement suivre. On est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la grammaire de la certitude.
Ce qui amène inévitablement la question, puisqu'on est sur des fondations aussi solides, de quoi sont faits ces piliers de certitude ?
Eh bien, le premier verset en dresse une liste de 4.
Le premier mentionné, c'est justement cet encouragement en Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'on a parfois l'impression que c'est juste genre une petite tape dans le dos, réconfortante.
Ah, ça va bien plus en profondeur qu'une simple tape dans le dos. Cet encouragement, il implique un renforcement courageux, une vraie force vitale qui découle directement du fait d'être spirituellement uni au Christ.
D'accord.
Il y a une dimension interne, une résilience psychologique, on pourrait dire, mais qui se traduit immédiatement par une dimension externe. C'est vraiment cette audace insufflée de l'intérieur qui permet ensuite d'encourager activement les autres.
C'est puissant. Et cette force interne nous amène, logiquement, au deuxième pilier de ce toit protecteur, le réconfort de l'amour.
C'est la consolation ultime. Il faut s'imaginer dans le monde antique, brutal. Ce réconfort de l'amour, c'est l'assurance absolue d'être profondément aimé par Dieu le Père. C'est savoir que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, l'individu est tenu par une force bienveillante, inébranlable.
Ce qui rend possible le troisième pilier, du coup ? La participation dans l'esprit. Faisons une petite pause là-dessus, parce qu'à l'oreille moderne, ça sonne comme un concept théologique super abstrait.
Complètement.
Mais dans le contexte de l'époque, c'était une véritable déflagration sociale, non ?
Et socialement des êtres humains qui n'avaient strictement aucune raison de se fréquenter dans le monde gréco-romain.
Et encore moins de se considérer comme égaux.
C'est clair. On parle d'un espace où d'un coup, des esclaves et des maîtres, des juifs et des grecs, des élites et des indigents partagent une même vie. Une même table, les mêmes ressources.
Alors que l'Empire romain était compartimenté à l'extrême.
Exactement. Voir ces cloisons exploser de l'intérieur grâce à cette participation commune, ça devait être un choc culturel vraiment indescriptible pour les observateurs.
Et pour lier toute cette mosaïque humaine, qui semble si improbable, il fallait le quatrième pilier. Celui qui semble être un peu le moteur émotionnel de tout le reste. L'affection et la compassion.
Voilà. Là, ce ne sont plus des concepts intellectuels. Ce sont les tripes qui parlent.
Ouais.
Le docteur Harmon insiste vraiment sur ce point. Ce sont des impulsions viscérales. L'affection et la compassion, elles décrivent les mouvements les plus profonds de l'amour.
Mais pas juste des frissons intérieurs, on est d'accord.
Ah, non. La subtilité, c'est que ces mouvements ne doivent jamais rester à l'état de belles pensées romantiques. Ils doivent obligatoirement se métamorphoser en actes tangibles d'attention envers autrui.
C'est fascinant. Et ce qui donne à ces quatre piliers une dimension monumentale, c'est leur architecture sous-jacente. Parce que si on analyse les trois premiers éléments, le Christ, l'amour qui vient du Père et l'Esprit, on découvre une structure trinitaire évidente.
Exact. Précisément pour invoquer le poids de l'univers. C'est pas de la théologie en chambre, en fait. En structurant ses acquis autour de la nature même de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, l'auteur, il dit en substance « Les forces les plus puissantes du cosmos tout entier sont engagées pour vous fournir cette fondation. »
Ah ouais, c'est pas rien.
Toute la nature du divin est impliquée pour garantir ses bénéfices. C'est pas juste des idées flottantes, ce sont des acquis irrévocables.
C'est le tremplin parfait pour la suite, du coup. La transition de cette phrase grecque interminable, puisque le cosmos garantit ses quatre piliers de manière certaine, quelle est la seule réaction logique possible? On s'attendrait à une consigne super solennelle sur l'adoration ou, je sais pas, l'ascétisme.
Bah oui.
Et à la place, on tombe sur une injonction complètement stupéfiante. Le verset 2 lâche la bombe. « Rendez ma joie parfaite » ou « Complétez ma joie » selon les traductions.
Oui. L'auteur y possède déjà une joie fondamentale. Il part pas de zéro, il n'est pas désespéré. Mais il demande que cette jauge de joie, qui est déjà entamée, soit remplie jusqu'à déborder, qu'elle atteigne son potentiel maximum.
Et c'est là que l'analyse d'Harmon vient renverser nos préjugés. Il souligne à quel point Dieu n'est pas le rabat-joie cosmique que la culture populaire dépeint souvent.
C'est tellement vrai.
On a cette image hyper persistante d'un créateur qui fronce les sourcils au moindre éclat de rire, quoi. Mais ce commandement de compléter la joie prouve tout l'inverse. Les humains sont biologiquement câblés pour rechercher la joie. C'est le moteur de toutes nos actions.
Absolument. Le drame, c'est pas de chercher la joie, c'est de s'acharner à la chercher dans des impasses. La quête en elle-même est non seulement légitime, mais elle est commandée.
Le problème, c'est l'équation qu'on utilise pour y parvenir, en fait.
C'est ça. Le texte déploie une méthode qui va complètement à rebrousse-poil de nos intuitions naturelles. L'auteur détaille 5 moyens très précis, 5 rouages, on va dire, pour faire tourner cette machine à produire de la joie complète.
Bon, regardons la mécanique de ces 5 rouages. Comment on fait monter la pression de cette joie concrètement?
La logique est très progressive. Premièrement, avoir le même amour, ça renvoie à cette affection viscérale dont on parlait.
D'accord.
Deuxièmement, être en plein accord, ou d'une même âme. Ça implique de partager intimement la vie au quotidien, pas juste de se croiser de loin le dimanche, quoi.
Ouais, une vraie communauté.
Troisièmement, être d'une seule pensée. C'est se focaliser sur le cœur de l'évangile sans se laisser dévorer par les distractions. Quatrièmement, ne rien faire par ambition égoïste. Et enfin, le cinquième, veiller activement aux intérêts des autres.
Là, il faut qu'on s'arrête sur le troisième rouage, cette idée d'être d'une seule pensée. Parce qu'à nos oreilles modernes, baignées de liberté individuelle, ça sonne tout de suite comme une alarme.
Ah, ça fait peur, oui.
Est-ce que le texte demande à la communauté de se transformer en un essaim d'abeilles? Une sorte d'esprit de ruche où tout esprit critique est annihilé. Jean, est-ce qu'on doit tous avoir la même opinion exacte sur la politique de la ville, l'économie, pour être d'une seule pensée?
Si on examine le reste des écrits de l'auteur et le contexte de l'époque, la réponse est un non catégorique.
Ouf, rassurant.
Il n'est pas question d'un clonage intellectuel terrifiant ou d'une uniformité aveugle, en fait. Être d'une seule pensée, c'est posséder une boussole interne calibrée sur le même nord magnétique.
Donc partager des priorités.
Voilà. C'est partager un cadre de vie fondamental, des valeurs ultimes, des priorités communes sur ce qui a une importance éternelle. La communauté, elle peut et elle va débattre vigoureusement des détails pratiques de la vie de tous les jours.
Ouais, on reste humain.
Exactement. Mais sur l'essentiel, la trajectoire est identique pour tout le monde. C'est un mécanisme de défense pour éviter que le groupe s'entre-déchire sur des trucs périphériques.
Donc on garde notre cerveau, mais on aligne nos priorités sur l'essentiel. C'est très clair. Mais même avec ça, appliquer ces cinq rouages, partager la vie intime, renoncer à l'ambition personnelle, s'occuper des affaires de l'autre, ça exigeait de franchir un obstacle psychologique monumental.
Le plus dur même.
L'obsession de soi. Et c'est là que le texte nous jette en plein dans un carambolage culturel, non seulement avec le monde antique, mais aussi avec notre modernité hyperconnectée.
L'obstacle est monstrueux, en effet. On ne peut pas mettre les intérêts des autres au premier plan sans porter un coup fatal à son propre ego. Et pour identifier cet ennemi antérieur, le texte originel grec utilise un concept fascinant.
Lequel ?
Les traductions classiques, comme la King James en anglais, l'ont brillamment capturé sous le terme de « vainglory », la vaine gloire.
La vaine gloire ? L'expression est d'une lucidité redoutable. C'est l'entrechoquement de deux mots qui racontent tout. Le vide absolu d'un côté et la recherche de grandeur de l'autre.
C'est la définition parfaite de la futilité, en fait. La vaine gloire, c'est cette quête épuisante d'une réputation, d'un statut ou d'applaudissement qui repose sur, sur aucune substance réelle. C'est essayer de bâtir un monument avec du vent.
C'est fou parce que le parallèle avec notre culture contemporaine est tellement évident que ça en est presque gênant. Cette vaine gloire, c'est littéralement le manuel d'utilisation de nos réseaux sociaux.
Mais tellement !
C'est l'économie entière du like, du flex permanent, où on orchestre des situations factices, on filtre nos vacances, nos échecs, dans l'unique but de gonfler un avatar virtuel.
Et dans ce système économique de la réputation, montrer une faiblesse, c'est la faillite.
Exactement. Avouer qu'on ne gère pas, c'est impardonnable. On s'épuise à sculpter une gloire qui est au final complètement creuse.
C'est une excellente lecture de notre époque. Et ce qui rend la perspective historique si vertigineuse, c'est que notre culture de l'image est un miroir quasi parfait du monde gréco-romain du 1er siècle.
Ah ouais ?
Oui. Ce choc des valeurs dont on parlait, il était d'une violence inouïe. Parce que dans la société romaine, l'humilité, c'était tout sauf une vertu.
Faut vraiment qu'on creuse ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a intégré l'humilité comme une qualité noble. On respecte un leader humble. On oublie complètement que ce n'était pas du tout l'état d'esprit par défaut de l'humanité à l'époque. Comment ça fonctionnait, ce monde antique ?
La société romaine fonctionnait sur une matrice impitoyable d'honneur et de honte. L'honneur y était perçu comme un jeu à somme nulle.
Genre une quantité limitée ?
Exactement, comme une monnaie physique avec une quantité finie en circulation. Si on cédait la place à quelqu'un, si on s'abaissait pour servir un plus petit que soi, on ne se montrait pas noble, on se mettait socialement en faillite. On transférait son propre honneur à l'autre.
Donc, montrer de l'humilité, c'était faire étalage d'une faiblesse. Faut vraiment qu'on creuse ça. Parce qu'aujourd'hui, on a intégré l'humilité comme une qualité noble. On respecte un leader humble. On oublie complètement que ce n'était pas du tout l'état d'esprit par défaut de l'humanité à l'époque. Comment ça fonctionnait, ce monde antique ?
La société romaine fonctionnait sur une matrice impitoyable d'honneur et de honte. L'honneur y était perçu comme un jeu à somme nulle.
Genre une quantité limitée ?
Exactement, comme une monnaie physique avec une quantité finie en circulation. Si on cédait la place à quelqu'un, si on s'abaissait pour servir un plus petit que soi, on ne se montrait pas noble, on se mettait socialement en faillite. On transférait son propre honneur à l'autre.
Donc, montrer de l'humilité, c'était faire étalage d'une faiblesse.
C'était pathétique à leurs yeux. Ça méritait le mépris. Le seul but de l'existence, c'était d'écraser les autres, d'accumuler de l'honneur et de gravir la pyramide sociale, quoi qu'il en coûte.
C'est terrifiant comme dynamique. Dans un système pareil, considérer les autres comme supérieurs à soi, c'est un suicide social délibéré.
Et c'est là que la révolution chrétienne opère. Les premiers chrétiens, en suivant l'exemple du Christ qui s'est dépouillé de sa propre gloire, ils ont pris cette pyramide gréco-romaine et ils l'ont retournée de force.
Incroyable.
Ils ont pris l'humilité, cette faiblesse crasse aux yeux de Rome, et l'ont hissée au rang de vertu suprême de l'univers, tout simplement parce qu'elle reflétait le caractère de Dieu lui-même.
C'est un renversement moral et intellectuel sans précédent. Mais du coup, si on redescend des hauteurs historiques pour atterrir dans notre réalité bien quotidienne,
oui.
Il y a un problème pratique qui nous frappe de plein fouet. Le docteur Harmon met le doigt sur une vérité très dérangeante. La nature humaine, elle est biologiquement programmée pour la survie du numéro 1.
C'est vrai, on est fait pour ça.
On est câblé pour protéger notre ego. Alors, face à une personne exaspérante, ou face à une situation qui demande un sacrifice qui coûte cher, comment on est censé appliquer ce renoncement à soi quand tout notre corps, toutes nos émotions hurlent de protéger nos propres intérêts ?
Ah, cette friction entre l'idéal théologique et la réalité psychologique, c'est vraiment le cœur du problème. C'est pas juste une question de changer d'opinion. C'est un affrontement direct avec nos propres émotions qui refusent souvent de coopérer.
Et ça soulève un dilemme terriblement moderne sur l'authenticité et l'obéissance, en fait.
Tout à fait.
Ah, l'authenticité, le mot magique de notre siècle. Le dogme actuel stipule que nos émotions sont la boussole ultime de la vérité.
Ouais.
Si on ne ressent pas un désir sincère et profond d'aider quelqu'un, le discours ambiant nous dit « ne le fais pas, tu te trahirais ». Agir sans le ressentir, c'est être hypocrite, c'est être fake. On a vraiment l'impression que l'émotion est devenue le prérequis indispensable à l'action.
Sauf que le problème, selon l'analyse de Harmon, c'est que cette définition d'authenticité, c'est une impasse totale. Ça n'a rien à voir avec la vision biblique.
Comment ça ?
La joie dont il est question dans l'Épître aux Philippiens, elle opère à une profondeur bien supérieure à celle de l'humeur du jour ou de l'enthousiasme passager.
Ah, d'accord.
Elle est arrimée aux fameuses certitudes inébranlables dont on parlait au début, pas aux fluctuations du stress quotidien, on le voit bien.
Ce qui veut dire que l'excuse sacro-sainte du « désolé mais je ne le sens pas aujourd'hui », elle n'a aucune validité ici.
Aucune. Si une personne au sein d'une communauté est abrasive, vraiment difficile à aimer, ou si une situation demande de renoncer à son confort, il n'y a pas de clause de sortie prévue sous prétexte que nos émotions ne sont pas alignées.
Mais on ne peut pas juste s'échapper.
Non. Le commandement de considérer cette personne comme plus importante demeure absolument intact. Et c'est ici qu'intervient la mécanique un peu paradoxale, mais vitale, de l'obéissance.
Mais comment on enclenche ce mécanisme quand le moteur émotionnel refuse de démarrer ? Comment on avance à froid, en fait ?
Par un choix brut et délibéré de la volonté. Il est impératif de prendre la décision de poser l'acte d'amour sacrificiel, même si les sentiments protestent vigoureusement à l'intérieur.
C'est pas naturel.
C'est ça le grand secret de ce texte. La psychologie humaine fonctionne souvent à l'envers de ce qu'on imagine. L'action précède très souvent l'émotion.
L'action avant l'émotion.
Voilà. C'est au cœur de l'effort, pendant qu'on sert l'autre, ou même bien après avoir consenti à ce renoncement coûteux, que le cœur s'adoucit mystérieusement. Les émotions finissent par rattraper les actes et s'aligner sur eux.
L'action forge le sentiment. On agit d'abord, et l'amour naît de l'acte lui-même. C'est un démenti monumental à la tyrannie de l'émotion immédiate qui nous paralyse tant de nos jours.
Exactement.
Et cette réalisation très pratique, hyper exigeante, elle nous précipite vers la conclusion de notre exploration de ce texte assez radical.
Pour synthétiser toute cette mécanique vertigineuse qu'on vient de démonter, on pourrait dire ceci. L'illusion moderne, c'est de croire que la joie s'accumule en empilant des expériences centrées sur l'ego, en évitant toute friction.
Alors que ce texte démontre l'inverse absolu.
Oui, la joie maximale ne s'épanouit que dans le terreau d'un amour sacrificiel, un amour radicalement centré sur les autres, qui puise sa force dans les certitudes inaltérables de l'Évangile. C'est un circuit fermé, en fait, où le don de soi produit l'allégresse.
C'est un mode d'emploi fascinant. Mais l'analyse de Harmon ne nous laisse pas nous en sortir avec de belles paroles philosophiques. Il propose un défi d'application redoutablement concret pour passer de la théorie à la pratique.
Oui, le défi qu'il formule avec ses recherches, c'est de passer à l'action, dès cette semaine.
Concrètement, ça donne quoi alors ?
Pas juste une vague pensée positive, hein. Un acte qui crée un vrai déficit personnel.
D'accord, un truc qui coûte.
Un acte qui demande de sacrifier du temps de repos, de dépenser de l'énergie qu'on aurait préféré garder pour soi, ou d'engager des ressources financières. L'objectif, c'est de s'effacer volontairement pour élever autrui.
Un acte qui coûte, ouais, pour éprouver cette mécanique de la joie. Et c'est précisément ce coût qui m'amène à une ultime réflexion. Une pensée qui émerge directement du gouffre qui sépare ce texte antique de notre réalité d'aujourd'hui.
Je vous écoute, enfin, on écoute.
Si la joie la plus profonde, la plus résistante aux tempêtes, elle se trouve enfouie dans le sacrifice personnel, dans le renoncement volontaire à notre propre confort au profit de l'autre, se pourrait-il que l'épidémie moderne de dépression, d'isolement, de vide existentiel soit directement liée à notre obsession féroce pour le confort absolu?
Ouf, c'est une déduction très troublante, mais incroyablement logique. À force de vouloir éliminer toute friction et tout effort envers les autres, on finit par stériliser notre propre capacité à ressentir la joie.
C'est terrifiant d'ironie, quand on y pense. Notre époque invente des applications et des services à la demande pour nous éviter la moindre contrariété, le moindre sacrifice de temps, la moindre interaction un peu exigeante avec les voisins.
C'est vrai, tout est optimisé pour le confort.
Et si ces désagréments, ces frictions, ce temps prétendument perdu pour les autres, c'était en réalité les ingrédients indispensables, le combustible même de cette joie que l'humanité entière recherche désespérément? C'est un vertige intellectuel qui mérite d'être médité longuement.
Assurément.
En tout cas, on voit bien qu'on est à des années-lumière du cliché de la spiritualité austère. Les couloirs froids dont on parlait au début se révèlent être la promesse d'une chaleur inégalée, à condition d'accepter d'y jeter son propre ego pour faire flamber le feu.
C'est magnifiquement résumé.
Un immense merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante. Gardons cette dynamique à l'esprit et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle analyse.